الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، mes frères, mes sœurs, nous continuons aujourd'hui à parler du pèlerinage. Certains d'entre nous pourraient s'étonner et dire pourquoi le prédicateur choisit-il de parler du pèlerinage alors que les pèlerins de cette année, qui avaient besoin qu'on leur enseigne comment bien pratiquer leur pèlerinage, sont déjà partis. Et il ne reste parmi nous que ceux qui n'ont pas encore accompli leur pèlerinage ou d'autres qui ne le feront pas cette année. Pourquoi donc parler du pèlerinage maintenant? Sachez que si nous choisissons de parler du pèlerinage maintenant, c'est parce que même ceux qui ne vont pas le pratiquer ou l'accomplir cette année, ou ceux qui l'ont déjà accompli, peuvent et doivent profiter du pèlerinage chaque année d'une manière ou d'une autre. En effet, le pèlerinage est une adoration qu'Allah a décrétée pour tous, et nous devons tous méditer chaque adoration qu'Allah Azza wa Jalla a décrétée, et donc nous devons méditer à propos de cette adoration qu'est le pèlerinage. Car celui qui méditera toutes les pratiques du pèlerinage, il sera étonné de voir que cette pratique contient énormément de secrets pour qui sait ouvrir les yeux. Premièrement, celui qui médite sur toutes les pratiques du pèlerinage comprendra qu'à travers le pèlerinage, notre foi augmente et nous gagnons de la piété. C'est d'ailleurs pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans Sourate le pèlerinage, voilà ce qui est prescrit. Quand Allah Azza wa Jal parle des pratiques du pèlerinage, il dit, voilà ce qui est prescrit. Et quiconque prend en haute considération les décrets sacrés d'Allah s'inspire de la piété des cœurs. Nous comprenons donc à travers ce verset que celui qui va au pèlerinage et à chaque situation il médite sur les places où il nous est ordonné d'adorer Allah, il médite sur ces endroits par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé, cet individu s'embellit de la piété et de la crainte d'Allah azza wa jal. Imagine donc que tu vas au pèlerinage, tu vois la maison sacrée, tu fais les 7 tours autour de cette maison sacrée, tu fais les 7 allers-retours entre Safa et Marwa, tu vas à la station Arafat, tu retournes à Muzdalifa, tu lapides les stèles, tu visites Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu visites la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu visites le cimetière des compagnons radiyallahu anhum, tu visites les champs de bataille de Badr et de Uhud. Comment pourrais-tu revenir de là-bas sans gagner de la piété? Ensuite, sachez que pendant son pèlerinage, l'individu apprend à obéir à son Seigneur et à se soumettre à lui avec humilité, sans aucune hésitation et sans se poser aucune question. Et cela tout simplement parce que l'adoration du pèlerinage contient beaucoup de pratiques qui n'ont de sens pour le pèlerin hormis dans le fait d'obéir à son Seigneur et de vouloir atteindre sa satisfaction. Le fait par exemple de se vêtir de 2 draps, un sur le dos et un autour de la taille, quel sens cela a pour le pèlerin à part répondre aux ordres d'Allah? Le fait de faire 7 allers-retours entre les points de Safa et le Marwa, quel sens cela a pour le musulman à part le fait de vouloir se soumettre et à Allah Azza wa Jal et d'obtenir sa satisfaction? Ici également, le fait de jeter 7 cailloux, le fait de faire les 7 tours, quel sens cela a à part le fait de vouloir obéir à Allah Azza wa Jal sans se poser aucune question? Ici le pèlerin apprend à obéir à son Seigneur sans se poser aucune question. Ici le pèlerin apprend que la soumission, la vénération et l'adoration n'est permise que lorsqu'elle est vouée à Allah Azza wa Jal uniquement. Ensuite, à travers le pèlerinage se réalise l'unité des musulmans et l'amour entre les musulmans. Et elle se réalise de manière concrète et de manière matérielle. Des millions d'individus se dirigent chaque année vers la péninsule arabique pour le pèlerinage. Des millions d'individus viennent chaque année. Ils sont d'origine, de nationalité et d'ethnie différentes. Ils sont de pays différents, de contrées éloignées, ils sont de couleurs différentes, ils parlent des langues différentes, ils ont des traditions et des coutumes différentes, mais ils se retrouvent tous en un même endroit. avec des vêtements identiques, avec un objectif identique, et tous d'une seule et même voix disent labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la sharika laka wal mulk, la sharika lak. À toi, me voici à toi, mon Seigneur, me voici à toi. Me voici à toi, nul associé à toi. Me voici à toi, les louanges sont à toi. Les privilèges viennent de toi, la royauté t'appartient, tu n'as aucun associé. Y a-t-il eu des milliards d'euros qui ont été dépensés dans une campagne publicitaire pour faire venir tous ces gens ? Y a-t-il eu un certain effort fait par des gens et des associations ou n'importe qui pour faire venir ces millions d'individus et dire tous la même chose et avoir tous le même objectif ? Qui donc les a appelés ? À qui répondent-ils ? Le Coran dans Sourate Al-Hajj nous explique que lorsqu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à notre prophète Ibrahim alayhi salam de construire la maison sacrée, il lui a dit « Appelle les gens, appelle les gens pour venir accomplir le pèlerinage. » Ibrahim s'est étonné. Au milieu du désert, il n'y avait personne. Allah Azza wa Jalla lui a dit « Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage. Fais aux gens une annonce pour le pèlerinage. Tu verras, ils viendront vers toi à pied, sur toutes sortes de montures. » Et ils viendront venant et empruntant des chemins très éloignés. Ici, le serviteur, le musulman, apprend la modestie. Il apprend le fait de ne pas s'enfler d'orgueil face aux êtres humains. Ici, nous comprenons que l'islam n'a pas pris l'égalité entre les gens comme slogan et ensuite l'a délaissé. Ensuite, a laissé cette valeur au stade de la devise ou du slogan, comme le font beaucoup de pays aujourd'hui. Non. L'islam a appelé à l'unité entre les individus. L'islam a appelé à l'égalité entre les individus, mais l'islam ne s'est pas contenté de les appeler. Cet islam a aussi mis en place des actes que les musulmans doivent pratiquer au moins une fois dans leur vie, qui les mettra au même niveau que les autres personnes, qu'ils le veuillent ou non. En effet, pendant le pèlerinage, le riche qui possède des fortunes doit se contenter de ce que se contente le pauvre, de draps en guise de vêtements. Interdiction pour lui de se parfumer, interdiction pour lui de se couvrir la tête, etc. Également le chef de l'État ou le roi d'un pays, il doit également s'habiller de ces deux vêtements-là, de ces deux draps-là. Il ne peut pas se couvrir la tête et il doit se mettre au même niveau que les autres. Aucune exception à cette règle. Dans quelle religion le roi d'un pays ou le chef d'un État ou le riche qui possède énormément de fortune accepterait de se mettre au même niveau que les autres de cette manière-là ? Ici le musulman, quelle que soit sa façon de vivre dans son foyer ou dans son pays, il apprend à vivre sans confort. Il apprend à vivre sans confort et il apprend à vivre en se contentant du minimum. Ensuite, le pèlerinage, C'est le sommet de toutes les sortes de sacrifices que l'on peut faire pour Dieu. La pratique du pèlerinage demande beaucoup de sacrifices, et cela dans des domaines différents. Chaque adoration pour Allah demande des sacrifices, mais le pèlerinage demande des sacrifices dans plusieurs domaines. La pratique du pèlerinage demande le sacrifice de l'argent, le sacrifice du temps, des efforts, de l'âme. Le pèlerinage demande que l'on abandonne des choses auxquelles on tient plus que tout, et tout cela uniquement pour Allah Azza wa Jal. Il y a dans le hajj, dans le pèlerinage, la clé pour comprendre le sens de notre existence sur terre. Allah nous a créés et nous a mis sur terre pour revendiquer son rappel et pour lui vouer une adoration exclusive. Eh bien, à propos du hajj et à propos de ce sens de notre existence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si Allah a décrété le tawaf autour de la maison sacrée et le passage entre les points de Safa et Marwa et la lapidation des stèles, ce n'est que pour appliquer le rappel de Dieu. Ce n'est que pour revendiquer le rappel de Dieu. Enfin, la plus grande des leçons que contient le pèlerinage, c'est que cette adoration nous rappelle la mort et le jour du jugement dernier. Quand le pèlerin quitte son pays, sa famille et ses amis pour le pèlerinage, cela lui fait rappeler le moment de l'agonie lorsqu'il doit quitter cette vie d'ici-bas pour celle de l'au-delà. Et lorsque le pèlerin se met en état d'ihram, en état de sacralisation. Il se lave et se parfume. Cela lui fait rappeler, quand il meurt, le lavage funéraire. Et lorsqu'il se vêtit de ces deux draps blancs, cela lui fait rappeler du linceul dans lequel on le vêtira pour la tombe. Ensuite, la multitude des gens et le fait de se retrouver au milieu d'une foule nous fait rappeler la foule le jour du jugement dernier. Le fait d'être insignifiant au milieu d'une foule nous fait rappeler la foule du jour du jugement dernier, lorsque chaque individu ne pensera qu'à lui et dira « Je pense d'abord à moi, à moi, à moi ». Lorsque le pèlerin attend toute la journée à la station Arafat, sous le soleil ardent du désert d'Arabie, cela lui fait rappeler le jour du jugement dernier. Lorsqu'il se retrouvera sous le soleil à attendre son jugement et qu'il n'y aura aucune ombre pour le protéger, sauf l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Et quand la foule d'un seul et même pas se lève et se dirige vers Muzdalifa, cela nous fait rappeler lorsque les gens ressusciteront et sortiront de leur tombe et se dirigeront vers l'endroit où nous devrons tous être jugés. Les allers-retours entre les points de Safa et Marwa nous font rappeler les allers et retours et les passages que nous ferons, que nous pratiquerons entre les prophètes pour qu'ils intercèdent en notre faveur. Que celui donc, mes frères et sœurs, qui n'a pas encore pratiqué le pèlerinage ou qui l'a déjà pratiqué et ne le pratiquera pas cette année, qu'il médite ces grandes leçons et ces grands secrets que contient le pèlerinage. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انصرنا وانصر امتنا اللهم انصرنا وانصر امتنا اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل تدميره في تدبيره واجعل كيده في نحره وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض اللهم أصلح أمتنا اللهم أصلح أمتنا اللهم إنك تعلم بحال أمتنا وبحال شبابنا وبحال نسائنا وبناتنا فأبدل حالنا إلى حال خير منها يا رب العالمين اللهم أبدل حال أمتنا إلى حال خير منها يا رب العالمين اللهم أصلح شبابنا اللهم اهدهم واهد بهم واجعلهم سببا لمن اهتدى اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأخواتنا اللهم اجعلهن متسترات متحجبات اللهم اجعلهن مصليات صائمات مقيمات اللهم اجعلهن صائمات مصليات قائمات اللهم إنك تعلم بكيد دعاة الضلال فاحفظ بناتنا واحفظ نساءنا من كيد دعاة الضلال اللهم اجمع شمل آبائنا اللهم اجمع شمل جماعاتنا اللهم وحد كلمتنا وحد صفنا ووحد قلوبنا على لا إله إلا الله اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملة حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الرحمة الواسعة إنك تعلم أننا في حاجة إلى رحمتك فارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا في دنيانا وارحمنا في آخرتنا اللهم ارحمنا في حياتنا وفي مماتنا اللهم ارحمنا في قبورنا اللهم ارحمنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وثبتنا عند سؤال الملكين في قبورنا اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين في قبورنا اللهم ارحمنا يوم القيامة واجعلنا من أهل ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة